Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Max.
Oui, bonsoir Sabine.
Alors donc vous voulez bien nous parler de votre propre expérience ?
Ben moi c'est la perte de vue à 51 ans.
Oui.
Ça a été rapide, j'ai fait un glaucome.
Oui.
Donc c'est malvoyant pendant 3 années.
Oui.
En basse vision, on va dire.
Oui.
Et la cécité est arrivée. Donc ça va faire 7 ans maintenant à peu près.
Max, donc, comment ça en est arrivé là ? C'était pas possible de vous opérer, de sauver
votre... Non, j'ai fait faire des bilans complets. Mais si vous voulez, je faisais de la tension oculaire depuis une quinzaine d'années.
Mmh.
Et c'est sournois parce que c'est indolore. Enfin, moi, je sentais rien.
Mmh.
Je commençais à avoir bien voir les tout petits caractères, vous savez, sur les notices techniques. Par exemple, de pharmacie, tout ça, j'avais pris des loupes de pharmacie. Je pensais que j'avais la vue qui faiblissait
doucement. Oui, vous pensiez que c'était quelque chose de banal.
Voilà, c'est ça. Et finalement, c'était quand on m'a dépisté, c'était un glaucome qui avait déjà fait des ravages. Le nerf optique était très atteint.
Vous aviez perdu du champ visuel aussi, certainement.
Ah le champ, c'était surtout un œil, c'était rapide, oui. J'avais quasiment plus rien sur un champ visuel, oui. Donc voilà, on bascule dans une autre dimension, on va dire. Parce qu'il faut apprendre à vivre quand on était voyant et non-voyant, c'est un combat. Mais bon, on a des aides, on a la chance d'être en France. Donc je suis parti dans un centre.
Oui.
Il y a 3 centres pour adultes déficients visuels.
Oui.
On peut les citer. Il y a la Ramave à Nîmes, qui est très connue, Ramave. Il y a Saint-Gaudens, André Matisse, à Saint-Gaudens,
oui.
Côté de Toulouse, et à Paris, c'est Saint-Louis, voilà. Moi, je suis parti à Saint-Gaudens parce qu'il y a des grandes listes d'attente. Ramav, on m'a annoncé 1 an et demi à 2 ans, et au bout de 7-8 mois, je suis rentré à Saint-Gaudens. Donc ça m'a beaucoup aidé quand même, parce que pendant 3 mois, bon, c'est pas défini la durée, ça peut être 3-6 mois suivant ce qu'ils évaluent,
oui,
sur nos besoins.
Et ce type de centre, c'est à la fois des soins, mais aussi une manière de vous apprendre à vivre avec le handicap.
C'est ça, parce que c'est exactement ça.
Les deux.
C'est un tiroir, c'est-à-dire qu'il y a des choses imposées, comme la locomotion, la canne, ça c'est obligatoire. Après, c'est un tiroir, chacun choisit son programme de la semaine. Ça peut être réapprendre à cuisiner, ça peut être l'informatique, le braille, ça peut être... toutes les nouvelles technologies, parce que là-bas, ils sont bardés de nouveaux procédés.
Et là, vous avez la possibilité de choisir en fonction des moyens qui vous semblent les plus proches
de
qualité naturelle et de votre mode de vie.
Donc, on est à nos studios, on est coucouné, on est pris en charge au niveau... Il n'y a que les lessives, parce qu'on a une machine à laver numérique. Enfin, c'est tout vocalisé, là-bas, c'est vraiment adapté.
Oui.
Donc voilà, on fait nos propres lessives et puis on a nos studios avec nos petites terrasses. Ouais, c'est sympa, c'est un peu les vacances, on va dire le mot. Mais il y a la cantine, bien sûr, et il y a un grand parc. On peut faire tout est des chemins. Les chemins sont vraiment étudiés pour la canne, donc on peut se balader en dehors des cours. On a du temps libre aussi, donc on peut même aller au centre. Moi, j'avais un voisin, on allait prendre un verre le soir, on sortait. On avait permission, à part que fallait pouvoir rentrer et le prouver qu'on rentrait bien, quoi, qu'on ne se faisait pas aider. Voilà, ça c'est
important. Donc pour vous, Max, c'était pas ça le plus dur, c'était pas cette période-là qui était la plus difficile.
Oh le plus dur, c'est ce qu'on est suivi par une psychologue, sur ce genre d'établissement.
Oui.
Et c'est les étapes qu'on m'avait indiquées qui font forcément arrivent naturellement, c'est-à-dire. Alors pour les nommer, c'est la colère.
Il y a la révolte, oui, dans un premier temps. Oui. Pourquoi ça m'arrive à moi? Comment ça se fait? C'est injuste.
C'est
je mérite pas ça.
Ensuite, l'acceptation, plus ou moins, c'est un autre terme, je ne sais plus les termes exacts. Et puis après, il y a la résilience. Mais la résilience, c'est vraiment le fait qu'on ait gardé son autre... Numéro un, c'est garder de l'autonomie.
La résilience, c'est une capacité d'adaptation de l'esprit humain. Donc là, véritablement, on entre dans la résilience, comme vous dites, une fois qu'on a pu exprimer sa colère, sa révolte, qu'on a pu faire l'épreuve de réalité, parce qu'on peut mettre ce terme là-dessus, et qu'ensuite, effectivement, on entre dans une phase d'adaptation. Max, on va s'interrompre un petit instant,
oui,
le temps des informations.
Il n'y a pas
mais
de problème.
Surtout, vous restez en ligne. Je vous reprends immédiatement après le flash et nous pouvons continuer notre échange et que vous pourrez continuer à nous transmettre donc, les différentes étapes de votre trajectoire. Je vous dis à tout de suite. Nous sommes en ligne avec Max. Donc Max est non-voyant et nous parlait donc des différentes phases qu'il a rencontrées puisque Max a perdu la vue à 51 ans. Ça n'a pas été facile, ça a été quelque chose qui s'est fait sur 3 ans. Max nous évoquait les 3 phases. Effectivement, il y a des phases psychologiques et nous parlions maintenant donc de résilience. Donc cette phase qui fait partie de nos capacités, qui fait partie du formidable potentiel humain, c'est cette capacité à s'adapter même à des choses extrêmement difficiles en restant en dessous du seuil traumatique de sorte que nous puissions continuer à vivre. Voilà, c'est la définition, disons, adaptative de la résilience. Max, vous êtes là, donc nous vous écoutons pour la suite de ce que vous souhaitez partager avec nous.
Oui, donc on en était au stade de la résilience qui vient forcément naturellement, puisque c'est... On peut dire que c'est l'acceptation, malgré que c'est un mot facile. On l'a vraiment jamais bien accepté, mais on vit avec, on n'en fait presque plus cas parce que c'est notre quotidien. Et
oui, voilà. C'est qu'effectivement, enfin, je comprends que vous hésitiez avec le terme d'acceptation,
oui,
parce qu'il s'agit d'accepter l'inacceptable. D'une certaine façon, c'est un principe de réalité, c'est-à-dire qu'on prend acte de la réalité telle qu'elle est en ce moment. Et on entre dans une phase adaptative en sachant que la réalité en question peut évoluer, se transformer et que ça fait partie de notre potentiel humain d'avoir heureusement la main sur notre vie. Même quand nous avons des épreuves qui nous frappent durement, nous ne sommes jamais sans aucune ressource ni sans aucune possibilité. Donc c'est exactement ça dont vous parliez à l'instant sous le terme de résilience.
Alors après, bien sûr, il faut se retrouver un chemin de vie, quoi, avec des objectifs.
Oui.
Il faut se trouver un but, parce que, bon, moi, j'avais plus l'âge pour vraiment me lancer dans une reclassification professionnelle.
Comment était votre vie avant, Max? Quel métier faisiez-vous?
J'étais dans l'imprimerie, moi. J'avais fait un parcours sur quelques grosses imprimeries nationales et j'avais créé un bureau. Je faisais du commerce dans l'impression, sur des gros marchés. C'était un peu spécifique, ce que je faisais, mais... j'étais assez indépendant et je donnais du travail sur des gros marques. J'optimisais sur des sites de production. C'est un peu spécial ce que je faisais.
Oui, c'est un métier lié à une expertise
technique
pointue. Donc effectivement, vous pouviez plus le pratiquer. Enfin là, il n'y avait pas d'alternative technologique.
Oh non, il n'y avait quasi plus de solution. Donc j'ai vite arrêté. Ça a été quand même le plus dur, c'est de laisser son travail, qui était quand même une passion, parce que j'avais pris le travail grâce à mon père, qui dirigeait l'imprimerie. Donc forcément.
Oui, c'est l'ADN familial, comme on dit.
Oui, j'avais l'ADN familial et puis j'aimais l'odeur de l'encre, j'aimais rentrer dans les imprimeries, je loupais pas une occasion pour... je faisais pas que du commerce, j'allais vraiment sur les sites. Oui, j'aimais, je venais de là, j'avais appris le travail après le bac, je me suis lancé tout de suite dans ce métier grâce à mon père.
Donc la grande tradition des artisans et des professionnels, c'est ça.
Oui, il m'avait laissé tout son savoir d'ailleurs, parce qu'il nous a quittés assez tôt, lui et mon père. Et oui, il m'a bien aidé sur mon démarrage d'indépendant. Et il m'avait donné les bonnes... Puis après, faut se trouver... j'en suis encore là, d'ailleurs. Je cherche tout le temps un petit peu des... Parce qu'on vit, on tourne vite dans une zone de confort, de routine, quoi. Moi, j'ai la chance d'être autonome. Donc, je vais sur le marché tout seul. Je fais mes courses, je demande qu'on m'aide sur place, quoi. Voilà, ça marche assez bien dans ma région là-dessus. Mais bon, ça suffit pas, faut trouver des objectifs quand même, des petits. Donc là, c'est le vélo. J'ai repris un peu le bike et puis voilà, j'essaie de me faire une salle de sport chez moi parce que j'ai besoin de. C'est pareil, le physique. Moi, je faisais beaucoup de sport avant.
Oui.
Quand on perd la vue, on se rend pas compte, mais on souffre physiquement. On peut plus courir tout seul, on peut plus partir en vélo. Il y a plein de passions comme ça.
Que l'on perd.
Oui.
Des pertes.
Ça peut aller très vite physiquement, on peut très vite se retrouver mal. Donc, peut-être la natation, on peut encore y aller tout seul, et encore. Il faut bien demander quand vous êtes dans le bassin pour entrer, parce que on n'est pas beaucoup refoulé hein, en tant que non-voyant. Hein. On nous demande beaucoup des accompagnants. Ce n'est pas chose facile d'avoir
oui.
des aidants.
Oui.
C'est pas si simple que ça.
Oui, c'est toute la question du service à la personne, effectivement.
Voilà, c'est ça.
Oui. Et il s'agit en plus d'avoir du service adéquat, parce que dans un cas comme celui-là, il faut des personnes compétentes.
Alors il y a beaucoup de gens, en règle générale, il y a beaucoup de gens, on va dire, gentils sur le bourgeois, sur le marché, même si c'est dur, parce que vous savez, il y a du monde souvent le marché, dans les allées centrales, les gens discutent, tout ça. Nous, on arrive avec une canne. Bon, les gens, souvent, ils nous laissent passer. Puis de temps en temps, c'est occasionnel. Quelqu'un vous prend le bras et dit, tiens, je peux vous guider un moment. Ça, c'est naturel. Et c'est,
vous le vivez bien quand des choses...
Comme...
Oui, dans ces cas-là, vous n'êtes pas inquiet, vous n'êtes pas...
Alors
oui.
Vous avez... j'ai écouté mon fils quand j'ai perdu la vue. Je vous en ai pas parlé. J'ai un fils qui est kiné-ostéopathe. Il est pas là, il est dans la Drôme, lui.
Oui.
Il m'a dit, je serai jamais là, pas pour toi, parce que je serai pas là physiquement. Je travaille bien sûr pour l'handicap. Hein, il est kiné-ostéopathe, donc il a beaucoup de paraplégiques, lui, en rééducation.
Oui.
Mais il m'a dit le mot qu'il fallait. Il m'a dit, pas tu vas te battre parce que tu vas remettre le kimono dans ta tête. Il me dit... Écoute bien la phrase que je te dis, remets le kimono dans ta tête, c'est un nouveau combat, mais comme tu étais fort sur un tapis d'une autre fois, et c'est vrai, il a raison, je crois que le passé sert aujourd'hui.
En fait, ce qu'a voulu faire votre fils, c'est vous reconnecter à vos ressources à vous, et surtout à un désir chez vous.
Surtout qu'il m'a fait comprendre que mon passé, de judoka, que j'étais là de 6 ans jusqu'à 27 ans sur les tapis, à faire même de la compétition, ça me sert aujourd'hui. C'est-à-dire que les arts martiaux, ça sert à ça. C'est-à-dire que on se plaint pas, on est face à l'adversité et il faut y aller. Et ben, l'handicap, c'est ça. Je suis tous les jours face à lui et c'est à moi d'y aller. Voilà. Il faut y aller. Il n'y a pas de secret. Si on se plaint, on bouge plus.
Vous semblez avoir d'immenses ressources morales. Ça vous a demandé du temps pour avoir cette force maintenant et d'avoir, comme dit joliment votre fils, ce kimono dans votre tête.
Oui. J'ai pas eu le déclic tout de suite. Vous avez raison, Sabine. J'ai pas eu le déclic tout de suite. C'est une prise de conscience. C'est Saint-Gaudens, quand je suis parti dans le centre.
Oui.
On avait un coach sport, hein. On faisait du sport aussi. On a été à la piscine. Il y avait une piscine juste en face. Et puis, on faisait de la rando, accompagné. Et le coach sportif, puis on avait une salle de sport avec des vélos, des vélos d'entraînement. Des vélos d'appartement, quoi. Et puis des tapis de course. Et le coach, dès que je lui ai parlé de mon judo, il m'a dit, remets-toi ça bien dans l'esprit, tu vas lui marcher dessus, toi, à l'handicap.
Oui, vous êtes un guerrier, dans le sens noble du terme, parce que les arts martiaux, c'est des guerriers.
C'est-à-dire que j'ai appris à me battre tout jeune, mais même professionnellement, hein, si on revient sur le... On fait un petit rétro arrière... si je me suis mis libéral dans une profession où, quand il arrivait Internet, je me suis fait marcher dessus sur la profession parce que le meilleur acheteur du monde, il avait repris au monde en faisant 5 clics. Moi, j'arrivais encore à faire des marchés parce que j'y croyais, puis j'allais voir les gens et la persévérance. Ben ça, c'est le sport qui apprend ça.
Oui, vous avez choisi le sport parce que vous aviez ça en vous. C'est dans les deux sens, certainement.
Oh, j'ai choisi le judo par hasard. C'était que mon prof de gym. Qui étaient les voisins de mes parents, qui étaient profs de gym, et puis qui étaient profs de judo. Et mes parents avaient acheté une villa, mon père a acheté une villa, et voilà, il m'a emmené au club naturellement avec son fils. Voilà. Ça se fait naturellement. Oui, ça m'a plu tout de suite. Ouais.
Il y a quelque chose de très important, Max, de ce que vous dites, qui, à mon sens, est universel s'agissant de l'être humain. Ce que vous dites, c'est qu'en sortant du centre, en réadaptant votre vie, vous arrivez à avoir une vie quotidienne qui est d'aller sur les marchés, de faire les tâches habituelles. Mais ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas retrouver... le sens que l'on donne à la vie s'il n'y a pas un grand désir qui à nouveau fait partie de notre existence, c'est retrouver un axe, un objectif. Et c'est très important ce que vous dites parce que effectivement il y a une étape où il s'agit, dans le cas de maladie, de retrouver la possibilité d'une vie quotidienne, de remplir nos tâches de vie, de survie. Et ensuite, pour que nous soyons à nouveau heureux, parce que c'est l'enjeu ultime de la résilience, c'est de retrouver quelque chose qui donne du sens à notre vie. Et là, l'exemple que vous nous donnez, la ressource que votre fils vous a transmise, montre très bien comment fonctionne l'esprit humain. Quand il dit, papa, Et je sais qu'il y a un kimono dans ta tête. On voit à quel point le monde humain, c'est un monde symbolique. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des objectifs concrets. Vous n'êtes pas obligé de faire un parcours de gymnastique. Vous n'êtes pas obligé de voir un plan de carrière, faire des choses concrètes. Ce sont aussi des symboles, des images, des choses qui nous parlent. Ce sont des fictions, ce sont des identifications auxquelles nous tenons. Vous êtes identifié à un judoka, à un guerrier. Donc tout ce qui donne du sens à notre vie, ce ne sont pas forcément des plans concrets ou des process. Oui. Ce sont aussi des significations, des mots qui sont comme des mots d'ordre dans notre vie. Et oui. Pour vous, judoka, guerrier, combattant, tout ça, ça fait partie des significations qui sont des vecteurs de votre existence. Oui. Donc, c'est une manière de dire aussi à ceux qui nous écoutent et qui sont dans la difficulté, c'est que pour un être humain, même quand il y a des impossibilités concrètes et où la voie matérielle semble barrée en disant « je ne pourrai jamais faire ce que je faisais avant, exercer mon métier, faire les mêmes parcours sportifs », il y a toujours une autre voie qui est ouverte, c'est une voie imaginaire et symbolique où nous existons aussi à travers notre propre mythe, notre oui. propre fiction. Pour vous, c'est le judoka. Pour d'autres, Bruno, lui, qui a témoigné tout à l'heure, c'est un artiste. Il parlait de musique, il parlait oui. de nature. Donc nous existons toujours à travers ce qu'on appelle en psychanalyse ce mythe individuel ou les fictions oui. qui nous sont propres. Et en attendant qu'on puisse les traduire en choses concrètes, elles maintiennent notre identité et nous permettent de continuer à être nous-mêmes.
Oui, oui. Et puis il y a toujours des pistes parallèles. Sans se lancer dans des défis sportifs en e-sport, par exemple, partir à la CAN dans un endroit de notre ville qu'on ne connaît pas. Bon, aujourd'hui, on a des technologies, hein, on a le GPS dans l'oreille avec les smartphones, donc ça va pas mal, ça. Hein, oui. Ça nous aide. Hein, on est bardé de matériel aujourd'hui, hein, faut le
c'est
savoir.
C'est vrai que
hein.
la technologie.
Oui, j'ai une machine à lire. Je vais au courrier tout seul, hein, je vais à ma boîte aux lettres, je lis mon courrier. Il y a un stylo qui s'appelle le pen frame, c'est-à-dire qu'on crée ces étiquettes sonores. Donc j'ai une chemise impôt, j'ai une chemise EDF. Je lis mon courrier, je vois que c'est le courrier d'EDF. Je cherche ma chemise EDF. Vous voyez, je suis tout seul.
C'est intéressant aussi ce que vous dites, Max, parce que c'est un sujet de réflexion sur la technologie. C'est que la technologie peut être même l'intelligence artificielle, puisque certainement beaucoup
de
c'est extraordinaire qu'on s'est mis au service de l'être humain, de sa dignité, de ses enjeux propres.
Je viens d'avoir un. Hein, ça va paraître. Je viens d'avoir un four multifonction sonore. Il est tout vocalisé. Bon, je pensais que c'était un gadget, parce qu'avant, je tournais le bouton, j'avais mes écrans et tout. Mais là, il y a toutes les recettes dessus.
Ah oui, en vocal, vous voulez dire ?
Oui, en vocal. Oui. Donc, ça veut dire que quand je me mets dans le programme recettes, je vois qu'il y a gratin, rôti, tel poids, tout. Il se règle tout seul, il s'éteint tout seul. Je ne peux pas aller faire un tour de. Dehors, je reviens, c'est cuit. C'est génial, quoi. C'est extraordinaire.
Max, vous allez faire rêver des femmes qui vont exiger votre four vocal.
Sabine, vous parlez de femmes, mais ça, c'est le gros défi d'un non-voyant. C'est qu'on ne les voit plus. Et pour trouver une femme, ce n'est pas simple.
Hein. Oui, ça, effectivement, ça fait partie des choses qui changent dans votre vie et auxquelles il faut trouver des solutions autres. Et là aussi, peut-être, la technologie, l'intelligence artificielle et tous les moyens de connexion peuvent aider.
Oui, mais pour revenir à ce que vous disiez, je vous allais faire par rapport aux femmes et la cuisine. Nous, les non-voyants, pour rencontrer une femme, c'est pas simple, parce que l'handicap oui. fait peur. Les gens pensent que nous sommes pas autonomes, que on va chercher une infirmière, une assistante. Non.
C'est vraiment pas l'impression que vous donnez, Max, quand on vous écoute.
Oui,
on est loin
ça,
de ces représentations-là.
Il faudrait que certaines personnes prennent conscience qu'un non-voyant est très aujourd'hui, il est très oui. très autonome.
Oui.
C'est pas facile de rencontrer quelqu'un parce que. Souvenez la chanson de Christophe, les mots bleus.
Oui,
mots qu'on dit avec les yeux. Donc oui. ça, on l'a plus le regard, nous.
C'est vrai, mais vous avez.
Il ne se passe plus rien quand on rencontre une personne, ravissante comme elle peut être. C'est la voix qui va nous parler.
Oui.
Il n'y a plus l'échange de regard et vous ne pouvez pas savoir que deux personnes qui se rencontrent, d'entrée de jeu, sans se parler, ils s'envoient des messages hors normes avec la vue.
C'est vrai, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on considère qu'avoir la vue, c'est une évidence.
Ça, c'est
oui.
ça.
Mais vous savez que tout dans les sens humains fonctionne de façon vibratoire. C'est qu'aujourd'hui, on commence à savoir, avec les neurosciences qui progressent beaucoup, que tout chez l'être humain est une émission de champs électromagnétiques. Donc tout se capte. Oui, il s'agit effectivement de la voix, il s'agit même des émotions. Les émotions invisibles, inaudibles, ce sont des champs électromagnétiques que l'autre peut capter, qu'il capte d'ailleurs, on le voit très bien avec les enfants qui n'ont pas le langage, mais qui captent tout à fait ce qu'est un climat humain, justement parce qu'ils captent ces vibrations-là.
Alors, on le sent quand vous voyez, je me déplace sur un trottoir, normalement à la canne, sur un trottoir. Il y a une voiture qui est garée à cheval sur le trottoir, donc elle est mal garée, mais elle ne doit pas être là, mais elle est là. Eh ben, sans la toucher, je suis à 5 mètres de la voiture, je sens une masse.
Ah oui. Ça, c'est...
Et ça, j'ai appris, c'est pas
oui.
tout seul. Hein.
Mais
je
oui.
sens une masse maintenant, je sais qu'il y a quelque chose.
Oui. Eh bien, Max, nous vous remercions beaucoup, beaucoup pour votre témoignage, parce que c'est un témoignage plein oui. d'espoir sur un sujet qui est tellement essentiel, surtout en ce moment où nous traversons des temps extrêmes. Ce thème de la résilience et du fait que l'être humain a des solutions, qu'il a une technologie intérieure pour cela, pour s'adapter, pour inventer, en plus de la technologie extérieure qu'on met à son service. Donc vraiment, merci beaucoup, Max.
C'est moi qui vous remercie.
Très belle continuation à vous.
À bientôt.
Et peut-être une autre fois, n'hésitez pas, je redonne le téléphone 09 69 39 10 11, que ce soit pour poser votre propre question ou pour réagir.
Sabine Caligari sur RTL. Parlons-nous.